marche du monde. Valérie Nivelon.
Alors le matin, on se levait, puis on se lavait les dents. Ensuite, on descendait manger, puis on remontait pour s'habiller. Après, on partait à la mer. Et puis, c'était pas très marrant parce qu'on était obligé de se baigner tout le temps, même si on avait froid et tout. Puis après, on rentre, on mangeait, on faisait la sieste, peut-être pendant, ça dépendait si on était fatigué ou pas, 1h30. Ensuite, on repartait à la mer. Puis quand on rentrait, on prenait le goûter. Enfin, tout ça, on préparait les veillées. Ensuite, on mangeait. Puis après, on faisait la veillée. Puis après, on allait se coucher. Mais c'était pas très marrant parce que toutes les nuits, on était réveillés par Agnès parce qu'elle faisait des cauchemars. Hein?
Rituel immuable de notre enfance, les colonies de vacances sont enracinées dans notre imaginaire collectif et à titre individuel, elles sont synonymes d'un nombre incalculable de premières fois. Première fois puisque vous n'aviez jamais vu la mer, première fois puisque vous n'aviez jamais grimpé dans la montagne avec un sac à dos et surtout, rappelez-vous, vous n'étiez jamais parti de chez vous. Mais au-delà de tous ces grands souvenirs, à titre collectif, les colonies de vacances, c'est bien plus que ça. Nées à la fin du 19e siècle, elles vont d'emblée refléter l'évolution de notre société, car les colonies de vacances vont rapidement devenir un enjeu d'éducation populaire.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson. Un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nos filles et garçons pour aller au bout de la terre.
Et pour nous guider dans le grand livre très illustré des colonies de vacances, j'ai convié son auteur, Mathias Gardet, spécialiste des politiques sociales de la jeunesse, maître de conférences à l'Université Paris 8 et historien. Bonjour Mathias Gardet.
Bonjour.
Votre livre intitulé « Les colonies de vacances » paru aux éditions du Cherche Midi est une grande première parce qu'au fond c'est la première fois que les archives des colonies de vacances sont ainsi publiées. Alors comment l'historien que vous êtes a-t-il procédé? Est-ce que vous vous attendiez à trouver autant d'archives privées sur le sujet?
Alors je m'y attendais parce que j'avais participé à des collectes comme ça auprès de grosses associations qui organisaient des colonies de vacances, des associations d'éducation populaire, et j'avais vu qu'il y avait des fonds photos tout à fait exceptionnels. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il y aurait des sites qui collectent autant d'images de particuliers, en particulier je pense au site Rétrocolo, avec un regard nostalgique, ou alors un site virtuel qui s'appelle le Musée de la Colo, qui ont des collections tout à fait extraordinaires de photos de colonies de vacances.
Et déjà sur la couverture, on a droit à trois petits garçons en short et casquette, quasiment bleu-blanc-rouge. C'est assez souriant et sympathique et fraternel. Alors 70 millions de petits Français y sont passés depuis la fin du 19e siècle. Le chiffre est conséquent. Et c'est très étonnant, Mathias Gardet, de découvrir avec vous les origines des colonies de vacances. Alors, quels en sont les premiers objectifs, puisque vous décrivez le projet comme charitable, hygiéniste et paternaliste?
Alors, il est en effet charitable, hygiéniste, mais je dirais qu'il y a deux enjeux qui se croisent au départ. Il y a d'abord un enjeu vraiment idéologique qui se pose déjà autour, sur fond de guerre scolaire, avec l'idée qu'une fois qu'on a poser cette instruction publique, laïque et obligatoire, il y avait du côté notamment des milieux confessionnels, le constat d'être dépossédé de l'éducation des enfants. Et assez rapidement, il repère qu'il y a en fait des temps de vacances, c'est-à-dire des temps qui ne sont pas occupés par l'école. Et ces temps de vacances vont être vraiment dans le sens premier de vacances, le temps creux, le temps vide, le temps non occupé. Et ça va être des enjeux idéologiques extrêmement forts, une véritable guerre pour occuper ces temps de vacances.
Donc une guerre entre laïcs et religieux, mais un grand essor des colonies de vacances qui va finalement s'amplifier entre deux guerres, avec l'arrivée au pouvoir du Front Populaire.
Le gouvernement de Front Populaire est constitué. Son programme est le programme du Front Populaire. Parmi les projets figurent la semaine de 40 heures, des contrats collectifs, des congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier.
1936, les congés payés, l'avènement des loisirs. Enfin, vive l'écolo et vive les scouts.
Paris, 25 000 scouts célèbrent le 25e anniversaire de leur organisation et acclament Lord Baden-Powell, créateur et chef mondial du scoutisme.
Continuez à pratiquer votre scoutisme, non seulement pour la distraction et le plaisir que vous en retirez, mais pour la joie de lui consacrer tous vos efforts sous la forme de bonnes actions et d'amitié envers les autres.
Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus.
Scout toujours ?
Prêt !
À l'aise. À l'appel de votre nom, sortez du rang et venez vous mettre en ligne.
Comment faut-il s'imaginer le développement de ces colonies de vacances, Mathias Gardet? On l'a compris, hein, il y a différents organismes, différentes institutions qui prennent en main l'organisation des colos. Mais il faut aussi des moyens, il faut aussi de l'argent. Alors, qui part en colo? Quels sont les moyens et quels sont les objectifs?
Alors, au départ, c'est vrai que ce que l'on vise avant tout, c'est les petits citadins des milieux populaires. C'est vraiment le premier objectif, dans un côté idéologique, comme je vous avais dit tout à l'heure, mais aussi dans un côté vraiment de campagne sanitaire. L'idée qu'il faut lutter contre les grandes épidémies de l'époque, et il faut absolument, comme on n'a pas de médicaments, par exemple, pour soigner la tuberculose, la seule chose qu'on a trouvée, c'est des politiques de prévention. Donc, c'est fortifier les enfants qui risqueraient de tomber malades, parce que de constitution trop chétive et parce que vivant dans des milieux qu'on juge trop insalubres. Et alors donc l'idée, c'est vraiment, on va les emmener au plein air, on va leur faire respirer, prendre le soleil, prendre l'air marin, et dans l'idée qu'ils se fortifient et qu'ils puissent mieux résister aux épidémies.
Donc au départ, on part plus faire une cure de santé que l'on ne part en vacances.
En vérité, voilà ce qu'il faut à tous les jeunes surmenés par une scolarité excessive. Animé par une atmosphère déprimante, le joyeux dépaysement des vacances, un changement d'air total, une vie nouvelle dans un cadre nouveau. Plus encore qu'un simple besoin, c'est une nécessité absolue.
La question de la santé est très centrale dans les colonies de vacances avant et après la Seconde Guerre mondiale. Écoutez Marcel Flouret, le préfet de la Libération de Paris. Il annonce les portions alimentaires pour chaque enfant. Nous sommes en 1945.
En ce qui concerne le ravitaillement des colonies, celles-ci bénéficieront des suppléments suivants par mois et par enfant. Matière grasse 100 grammes, viande 750 grammes, pâtes 300 grammes, légumes secs 300 grammes, sucre 250 grammes, confiture 500 grammes, farine pour soupe 500 grammes. En outre, certains départements producteurs de pommes de terre, fruits et légumes, œufs, volailles et lapins sont en mesure d'approvisionner les colonies de vacances sur leurs excédents. Je souhaite que ces premières vacances de paix apportent à nos enfants le repos, le réconfort et la détente dont ils ont tant besoin et contribuent à leur rendre cet équilibre physique et moral si souvent compromis par la dureté des temps.
Les premières vacances de paix, nous dit Marcel Flouret, donc premier préfet de la France libre à Paris. 300 000 enfants à la Libération partent en colo. Mathias Gardet, c'est une priorité nationale donc dans cette France de l'après-guerre.
C'est une priorité nationale, d'autant il faut se rappeler qu'il y a le rationnement à l'époque. Ouais. Il y a le fameux ticket de rationnement pour les jeunes, le J3. Et c'est vrai que déjà depuis l'entre-deux-guerres, la réussite d'une colonie de vacances, c'est pas le fait que les enfants se soient bien amusés, mais c'est un drôle d'équation qu'ils font, c'est qu'ils aient grossi, qu'ils aient grandi et que l'amplitude de leur cage thoraxique est augmentée.
Ah, ça veut dire quand ils arrivent, on les pèse, on les mesure ?
On les pèse, on les mesure à l'arrivée, ouais, et au départ. Et ce que l'on publie, toutes les organisations, c'est les lettres des parents. Et là, la meilleure lettre qu'on puisse publier, c'est la lettre où la mère ou le père dit « Je n'ai pas reconnu mon petit Paul » ou « Je n'ai pas reconnu mon petit René » tellement il avait changé, tellement il avait grandi, tellement il avait grossi.
Et vous indiquez d'ailleurs dans votre livre que l'État crée une direction de la jeunesse et des sports. C'est une affaire tout à fait sérieuse, une affaire de politique nationale. Cet investissement de l'État était également apparu pendant la guerre, alors que la France collaborait avec l'occupant allemand.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Les écoles ont cette année fermé leurs portes plus tôt que de coutume. Et les enfants des villes, les enfants des faubourgs, les enfants qui ne connaissent pas la joie du séjour à la campagne, passent les longues journées d'été au hasard de la rue. C'est pour eux, c'est pour ces petits qui ont droit à leur part de bonheur, que le Secours National fait appel à l'esprit d'entraide de tous les Français. 1 million d'enfants ont été l'an passé les hôtes des colonies de vacances. 1 million, soit 5 fois plus qu'en 1937. Il faut cette année faire mieux encore. Il faut que nos enfants ne souffrent pas des misères du temps présent. Appel à votre sens de la solidarité nationale. Les enfants de France vous demandent de vous associer à la croisade de l'air pur.
Sans les sous qu'ils ont donnés aux fighters, on serait encore chez nous, à Montmartre.
Ben oui, mon vieux, sans eux, on n'aurait jamais vu la campagne.
Aussi sympathique soit-il, nous venons d'entendre un document de propagande, puisque nous sommes en 1943, en juillet, un document diffusé sur la radio française sous domination allemande, une archive à décrypter, Mathias Gardet.
Alors, il ne faut pas oublier que le Secours National, qui est mis en place, comme cela avait été le cas pendant la Première Guerre mondiale, qui est remis en place pendant la Seconde Guerre mondiale, est là pour s'occuper justement des enfants victimes de la guerre et en général de toutes les populations victimes de la guerre. Et c'est vrai que ce Secours National va mettre en place durant cette période non seulement des accueils temporaires d'enfants comme sont les colonies de vacances, mais aussi des maisons d'enfants, hein, pour les enfants qui seraient sans foyer. Donc cette priorité vraiment de l'air pur, hein, est une grande campagne menée par le Secours National. Il faut penser que c'est la même période où on va faire aussi des écoles de cadres de la jeunesse, on va faire des grands chantiers de la jeunesse. Hein, c'est l'idée de reconstruire la France qui est défaite, la France qui est occupée par la jeunesse.
Voilà, et la France est occupée. Donc de quelle façon aussi, comme on a pu l'entendre, on utilise cette politique à l'égard de la jeunesse pour servir aussi cette idéologie pétainiste, travail, famille, patrie.
Mais ce qui est tout à fait fascinant, hein, c'est une espèce de négation de l'occupation. Hein, on ne parle jamais des zones quand on parle des écoles de cadres, des chantiers de jeunesse ou des colonies de vacances pour la jeunesse. Hein, on a une espèce de mystique nationale, hein, qui essaye de faire une reconstruction comme ça de la France, comme si elle n'était pas défaite, comme si elle n'était pas occupée, comme si elle n'était pas coupée en deux.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous feuilletons ensemble le grand livre des colonies de vacances signé Mathias Gardet, L'écolo, enjeu de la politique de la jeunesse, dans la France cette fois libérée, après 45.
Vous savez que la question des colonies de vacances est une de celles qui nous préoccupe le plus. Les raisons en sont faciles à comprendre. Dans un pays qui a été ravagé par la guerre, où la jeunesse a beaucoup souffert, il est absolument essentiel de faire un effort aussi large que possible. L'effort que nous avons fait ne correspond pas encore à tout ce que nous espérions, mais si je vous donne quelques chiffres, cela vous donnera une idée de ce qui a déjà été réalisé. En 1945, nous avons pu envoyer 350 000 enfants en colonies de vacances. En 1946, 500 000. Cette année, nous pensons atteindre un chiffre voisin de 800 000 et nous allons travailler ferme pour arriver en 1948, si le Parlement nous en donne les moyens, comme je l'espère, à un chiffre de 1,5 million d'enfants.
Et c'est le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui en parle. Et ces enfants partis en colo, ils se retrouvent donc loin de leurs parents, auxquels ils écrivent consciencieusement. C'est la fameuse activité courrier, une corvée pour les uns, un plaisir pour les autres.
Tu nous verrais à table, on mange tous comme de vrais ogres. Le moniteur dit que c'est parce qu'on fait du sport. On grimpe sur des filets. Et puis on fait du travail utile Tu verrais, maman, on construit des maisons, des châteaux. Mon meilleur ami, c'est Roland. Linette, elle aussi, elle est bien gentille. Le soir, on fait sa toilette bien en grand. Et après, c'est le bonsoir dans le lit. C'est la belle vie.
Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, coucou.
Les colonies de vacances du point de vue des enfants. Alors, pour le savoir, l'historien que vous êtes a donc compulsé énormément de lettres. On vient d'en entendre une lettre qui date des années 50. Les lettres les plus anciennes que vous avez pu trouver datent de quelle époque à peu près ?
Le problème, c'est que dans l'entre-deux-guerres, on publie des lettres, les organisations publient des lettres, mais on se demande presque si c'est pas des lettres de propagande, presque écrites par des adultes.
Et justement, alors là, l'historien que vous êtes doit dénouer le vrai du faux, puisque vous devez aussi essayer de vérifier si ces documents ne sont pas des documents falsifiés, du coup.
Mais dans les années 40, 50, 60, en revanche, se diffuse énormément la carte postale, et là, on retrouve vraiment la carte postale rédigée par les enfants avec les fautes d'orthographe, et on reconnaît bien le style et d'ailleurs l'humour aussi que peut avoir ces jeunes, le côté aussi catastrophique qu'ils peuvent annoncer de leur état de santé tout en disant à leurs parents de ne pas s'inquiéter.
Et est-ce qu'on sent justement de la littérature de ces lettres des enfants à leurs parents la volonté, je dirais, de l'institution colonie de vacances à faire passer le message, celui que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire on a bien grandi, on a bien grossi. Est-ce qu'on retrouve ces objectifs dans la littérature enfantine ?
Alors, on retrouve surtout l'objectif de réussir le bon courrier dans l'immense littérature à destination des moniteurs de colonies de vacances ou des organisateurs de colonies de vacances. C'est un vrai débat interne. C'est-à-dire que la question du courrier, on demande aux moniteurs à la fois de contrôler ce courrier pour que justement ça n'inquiète pas trop les parents, mais en même temps que ce courrier ait l'air spontané et donne bien des nouvelles aux parents.
Aidez-nous à envoyer au grand soleil des vacances tous les jeunes Français affaiblis, sous-alimentés et anémiés. Créez vous aussi de la santé, de la force et de l'espoir pour qu'ils nous reviennent heureux et bien portants. Offrez votre vol à cette magnifique croisade sociale qui prépare à notre pays un avenir plein de promesses, grâce à la jeunesse au plein air.
Avec les congés payés en 1936, les colonies de vacances prennent de l'ampleur. C'est ainsi que la Fédération nationale des œuvres laïques de vacances d'enfants est créée en 1938. Les enfants de toute catégorie ne peuvent être pendant 2 mois et demi abandonnés à l'oisiveté démoralisante, déclare alors Georges Lapierre, premier secrétaire général de la Fédération.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée aux vacances en plein air à l'occasion de la sortie du livre de Mathias Gardet, Les colonies de vacances, paru aux éditions du Cherche Midi.
La mer, le port, les jeux de ses camarades d'école laissent Pierre indifférent. L'enfant du Havre songe aux montagnes. Il rêve d'y passer les vacances cet été. Ces vacances que d'autres voudraient vivre à la mer, au bord de l'eau. Jean, lui, imagine quelques lointaines aventures au large, mais il habite Sartrouville et n'a pas l'âge d'être marin. Les parents de ces jeunes gens travaillent à la Société de construction aéronautique du Nord. Le comité central d'entreprise organise les vacances de tous les enfants du personnel. Dans chaque comité d'usine, une visite médicale dirige les futurs colons vers les régions les plus favorables à leur développement physique. Certains enfants apprennent leur affectation avec joie. De solide apparence, ce grand garçon se voit prescrire une cure d'altitude. Il préfère la mer, mais ce n'est plus affaire de goût. Nous essaierons cependant de lui rendre le séjour agréable.
Sur la fougère, de toile et de bateau,
Et on vous retrouve, Mathias Gardet, habitué bien sûr des archives écrites, habitué aussi des archives filmiques et sonores, et vous en découvrez quelques-unes à l'occasion de cette émission. Alors on entend à quel point dans les années 50, les colonies de vacances représentent un investissement énorme de la part du secrétariat d'État à la jeunesse. On a entendu aussi que finalement, on choisit pas forcément sa destination, mais on est envoyé finalement à la mer ou à la montagne selon ses carences physiques, c'est ça ?
Alors selon ses carences physiques, mais aussi selon les domaines que peuvent avoir ou les associations ou les entreprises qui ont investi massivement pour acheter notamment des châteaux ou des vieilles demeures où elles logent les enfants du personnel, comme dans l'extrait sonore qu'on a entendu, avec parfois vraiment un véritable esprit d'entreprise. Je pense par exemple à la caisse sociale de DFGDF qui envoyait les enfants et les moniteurs, les encadreurs, c'était des gaziers électriciens de France, et comme par hasard, le camp où on les envoyait était à deux pas d'un des barrages qui était une autre réalisation d'EDF GDF.
Et d'ailleurs, vous montrez dans votre livre que notamment entre les deux guerres, les municipalités communistes installent, elles, des colonies de vacances dans des châteaux.
Ça m'avait fasciné puisque il y a vraiment un côté revanche sociale.
Ouais.
Toutes les mairies communistes, en effet, n'achètent pas n'importe quelle propriété. Souvent achètent des châteaux et font toute une publicité en disant on envoie, regardez, on envoie les enfants des pauvres dans les châteaux. C'est les nouveaux châtelains. On se réapproprie finalement des espaces qui jusque-là nous étaient interdits.
Et alors à l'époque, les opposants aux communistes les accusent de soviétiser les enfants. Vous avez trouvé des preuves de cette soviétisation?
Soviétisation serait beaucoup dire, mais on trouve tout le côté très ostentatoire, mais qui était typique de cette époque, les grands défilés, on leur donnait un petit maillot, souvent un maillot rouge, une casquette, ils défilaient en chantant l'international, alors que d'autres chantaient des chansons scouts.
Ou religieuses. Pour ceux qui partaient avec des institutions religieuses. La chanson, ça fait vraiment partie de la colo.
Le visage inondé de lumière, tourné vers des lendemains heureux. Nous bâtirons une cité fière en chantant des refrains joyeux. Amitié, amitié, liberté, liberté. À vous, l'avenir sera plus beau.
Allez, laisse tourner, Bernard.
Ouais,
bon, alors maintenant, vous me chantez une petite chanson en arabe. Vous pouvez?
Une
vraie chanson, pas Mustapha.
C'est trop connu.
Non, puis une chanson en arabe. Vous connaissez une? Alors, qui c'est qui fait le meneur de jeu, là? Bon, allez, tu fais un, deux, trois, vous démarrez ensemble en arabe.
Un, deux, trois.
Un chidou, ya shabab. Un chidou, kulluna il hasan. وانشبوا وانشروا في الزمان وانشبوا وانشروا في الزمان كلنا يمينا ملمنا يا كلمنا كلنا يمينا يا الحمد.
Formidable archive de l'INA, encore une. Nous sommes en 1961 à Évian, où seront d'ailleurs signés un an plus tard les fameux accords d'Évian marquant la fin de la guerre d'Algérie. Mais bon, en 61, l'Algérie est encore un département français, Mathias Gardet, ce qui m'amène évidemment à vous poser la question de l'application de cette politique de la jeunesse en Algérie, mais aussi dans les colonies avant 1960.
Alors cette application est tout à fait présente, même si c'est vraiment un travail qui reste à faire. On voit dans les débats dès le début du siècle des choses très drôles, notamment dans les grands congrès de colonies de vacances, l'idée que l'on pourrait envoyer les petits Français de métropole pendant l'hiver en Algérie, et réciproquement, on sait qu'on a envoyé les petits Algériens dans des domaines en métropole.
On l'a entendu.
Et d'ailleurs, se posera de façon tout à fait sérieuse au moment de l'indépendance la question justement de que faire de ces domaines qui parfois ont été achetés et gérés par des associations en Algérie.
Alors, si des millions d'enfants partent en colo chaque été, ils ne sont pas les seuls, hein, puisqu'ils sont accompagnés et encadrés par des milliers d'adultes. 28 000 personnes sont, par exemple, en 1965, formées grâce à des stages créés par Henri Laborde, le fondateur des CMEA. En quoi consistent ces stages et quels problèmes ça pose à l'époque, Mathias Gardet ?
Alors, les tout premiers stages datent de 1937 et ils sont au départ pensés à destination des instituteurs. Parce qu'il y a un vieux rêve, c'est que le moniteur parfait des colonies de vacances serait l'instituteur. Et on a des récits extrêmement drôles de ce tout premier stage de 1937 par une journaliste qui s'appelle Juliette Paris, hein, qui raconte comment sont arrivés ces jeunes normaliens de toute la France, hein, dans un château à Beaurepaire. Recueil et comment ils sont retrouvés à leur stupéfaction, hein, devant un chef scout qui avait une soixantaine d'années en culotte courte et qui a commencé à vouloir leur faire chanter des chansons et finalement à vivre la vie des enfants en colonie de vacances. Et elle raconte avec toujours ce même humour comment au départ il y a une espèce de résistance passive et comment petit à petit ces moniteurs se prennent au jeu et finissent par faire le jeu du foulard, par chanter vol la perdriole, hein, et paraître de véritables enfants, sur le modèle scout notamment, hein, de faire revivre à l'adulte la vie de l'enfant et de lui faire penser justement des activités, hein, des activités qu'on va appeler des méthodes d'éducation active, que ce soit des activités marionnettes, des activités théâtre, des activités d'animation, hein, et qui donneront naissance seulement dans la Seconde Guerre mondiale au tout premier diplôme de moniteur, hein, qui est l'ancêtre des animateurs actuels.
Alors on écoute Henri Laborde, donc ce théoricien des méthodes d'éducation active.
Nous considérons par exemple que la plus grande réforme, peut-être une des plus grandes réformes à faire quand il s'agit d'enseignement, est dans l'ensemble des rapports de la collectivité scolaire. Et tout d'abord, des rapports entre les maîtres et les élèves. Et que par conséquent, l'école ne soit plus ce lieu où l'on ne parle pas, où l'on n'agit pas, mais soit au contraire ce lieu où l'on parle beaucoup et où l'on agit beaucoup. C'est une véritable coopération à une œuvre commune que l'adulte et l'enfant ou l'adolescent vont entreprendre ensemble. Un des caractères de notre action internationale est celui-ci. Nous n'allons pas faire des stages dans les pays qui nous accueillent à la façon de gens qui ne font que passer. Nous avons, par exemple, un très grand travail accompli dans les jeunes États d'Afrique, noire et blanche. En Algérie, où notre délégation, notre association nationale est une des plus anciennes de l'étranger pour nous. En Afrique noire aussi, jusqu'à Madagascar, nous avons là sept pays qui font partie de notre fédération internationale.
Henri Laborde, fondateur des CMEA, ce qui signifie Centre d'entraînement méthode d'éducation active, des propos quand même assez révolutionnaires sur la relation maître-élève, et nous sommes avant 68, Mathias Gardet.
Ah oui, c'est vraiment, là on a l'inspiration tout à fait des mouvements d'éducation nouvelle, hein, l'idée de changer les rapports entre le maître et l'élève, et on va en avoir une application plus tardive que les colonies de vacances dans les milieux scolaires, c'est à partir de la fin des années 50 et des années 60, les fameuses classes vertes, classes de mer ou classes de neige, hein, où on va transférer donc la classe, hein, dans un environnement tout différent, et on va demander justement au maître, hein, de non pas devenir un moniteur comme on le rêvait, mais du coup de participer à cette vie dans un cadre tout à fait différent, et du coup à changer ses habitudes aussi entre enseigné et enseignant.
Alors dans la série des changements, la direction de la jeunesse et des sports devient le ministère de la jeunesse et des sports en 1966. Et en ce qui concerne la formation des fameux moniteurs, c'est 20 000 par an, donc là les instituts n'y suffisent plus, hein.
D'emblée, en fait, les instituts n'y suffisent plus. On s'aperçoit que déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'autres mouvements, notamment les mouvements confessionnels, vont former beaucoup plus largement que dans le milieu des instituteurs, en faisant appel à des étudiants, à des hommes et femmes de bonne volonté. Et après la guerre, on va avoir toute une série d'organismes de formation qui vont proposer très largement de former justement ce qu'on appelle d'abord des moniteurs et qu'on appellera seulement dans les années 70 des animateurs.
Les fameux monos. Alors, c'est 900 millions de subventions de l'État français. Et puis, en 1966, c'est aussi l'année de la création de la fameuse chanson de Pierre Perret, une satire des colonies de vacances qui fait scandale.
Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille.
Toutes les colonies de vacances aujourd'hui sont en général vraiment à 98%, je le disais tout à l'heure à ce monsieur, des endroits vraiment sympas, riants, propres. Et je viens de faire une tournée, j'ai été invité dans des tas d'endroits par les moniteurs très gentiment. J'ai visité leurs colonies, j'ai vu ce qu'ils mangeaient, j'ai vu dans quels endroits ils étaient. Bah, c'est vraiment formidable. C'est une espèce de satire un peu paradoxale sur des choses qui ont existé, qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Mais enfin, j'estime que si certains se plaignent de ces paroles, c'est qu'ils se sentent certainement un peu visés et qu'ils n'ont pas la conscience très tranquille.
Le matin, on va faire les poubelles. Les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle.
Des jolies communes de vacances, le tube absolu de Pierre Perret, dont vous êtes un grand fan, Mathias Gardet. Alors c'est très drôle, mais alors à l'époque, ça fait pas rire tout le monde. Hein. Un scandale, des interdictions en radio.
Alors, ce qui est drôle, c'est que par la suite, ça a été réapproprié presque comme un chant qui fait l'allégorie des colonies de vacances. Hein, alors qu'en effet, sur le moment, ça a été pris comme une critique. Et je pense que d'ailleurs, cette chanson amorce hein, les premières critiques de fond hein, qui...
Alors allons-y.
Qui va faire critiques. Les critiques, c'est sur le côté un petit peu vieillot de l'encadrement, le fait qu'ils se sont... Alors, une des critiques, par exemple, qui est tout à fait forte, et c'est ça qui est très amusant qu'on puisse écouter les chansons, c'est le fait que l'on continue sur un répertoire de chansons traditionnelles, folkloriques, alors que dans ces années-là, arrivent des nouvelles chansons,
hein,
les chansons modernes, et il y a des débats extrêmement virulents dans les mouvements qui s'opposent à ces chansons, à ce mouvement yéyé, à ce mouvement salut les copains, et qui vont continuer à cultiver ce vieux répertoire. Alors ça fait partie un petit peu du côté encadrement suranné, encadrement qui propose toujours les mêmes activités, hein, sans prendre en compte justement les nouveaux besoins hein, de la jeunesse, le nouveau marché de la jeunesse, les nouveaux loisirs de la jeunesse.
Alors toutes ces questions sont posées par Ralph Pinto en 1965, lors d'un départ en colo, il interroge Jean-Louis Sanglier, président de l'UFCV. Au moment des départs, l'UFCV étant un des organismes qui organise justement le départ des enfants en colo.
Il y a une spontanéité dans le choix de nos activités qui, par exemple, tel directeur va proposer aux enfants de choisir eux-mêmes entre plusieurs thèmes, plusieurs activités dans la journée. Et les enfants peuvent aller avec tel ou tel moniteur. Le temps où vous-même, Ralph Pinto, vous avez peut-être connu le moniteur, n'existe plus. Vous choisiriez entre les moniteurs qui vous proposent à la carte l'activité du jour.
Jean-Louis Sanglier, vous savez quel est l'autre reproche qu'on vous fait? On vous dit, vous accueillez des enfants qui apprennent la vie de la liberté, la véritable liberté pendant les vacances. Et au moment de la réinsertion dans les familles, au retour de la colo, ce seront de véritables garnements qui auront une soif de liberté terrible et qu'on ne pourra plus retenir à la maison.
Non, je ne le crois pas. Ces jours derniers, effectivement, le départ du gamin ou de la gamine a été la préoccupation principale de dizaines de milliers de familles. Que toutes ces familles sachent qu'une vraie colonie, c'est une chance pour les enfants. L'apprentissage de la liberté, s'il est fait avec tout ce que cela comporte, ne peut pas être une erreur pédagogique, c'est pas possible. Pour nous, il ne faut pas que la colonie marche. Bien sûr, il faut qu'elle marche, que les enfants soient bien nourris, dorment bien. Mais il faut que les enfants soient heureux. Heureux du bonheur de vivre, si pour un temps dans la nature, dans l'odeur et les couleurs de la nature, un enfant est heureux, nous avons atteint nos buts.
Ensemble,
alors si à la fois on a envie que la colonie de vacances se modernise, finalement que les années 60 et bientôt 68, cette espèce d'appel à la liberté fait peur à d'autres.
Il fait peur à d'autres, et puis d'un autre côté, il y a la peur inverse de la commercialisation. Hein, puisque le but qui est quand même discuté, qui continue à discuter dans les années 60-70, c'est le but social. Hein. C'est l'idée que les colonies de vacances doivent servir avant tout aux gens qui n'ont pas le moyen d'aller en vacances. Et à côté de ça, commencent à se créer des super colonies, des colonies d'élite, hein, des colonies où on proposerait des activités au top du top, mais qui coûtent hein, et qui sont pas accessibles pour la plupart des familles.
Alors vous le montrez dans votre livre, les colonies de vacances connaissent en fait leur heure de gloire dans les années 70, à une époque où il devient plus évident de considérer les enfants comme des personnes à part entière, des enfants à qui on demande enfin leur avis sur ce qu'ils aiment ou n'aiment pas en colo. Écoutez ce qu'ils répondent au micro de Ralph Pinto, toujours lui. Nous sommes en 1976.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Ben moi, ce qui m'a plu, c'est tout la bouffe, les pieux, enfin tout. Toutes les activités en montagne, les monos sont sympas, le directeur, ben... Bon, à la mer, c'était bien parce que on se baignait, mais enfin, ce qui est bête dans les colos, c'est qu'on nous met un parc, enfin, une banderole. Alors, ça nous empêche, on a un tout petit carré de mer, alors c'est pas terrible, terrible.
Mais autrement, dans les colos d'été, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez trouvé vraiment très bien?
Ouais, c'est la mer surtout. Puis quand on fait soleil, puis c'est bien, surtout le voyage, c'est bien tout.
Les copains?
Ouais, surtout.
Messieurs, s'il vous plaît!
Je suppose que vous attendez tous avec impatience l'arrivée du dessert. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il s'agit ce soir de Petit Suisse. Je tiens à vous rappeler que le Petit Suisse est un fromage frais, triple crème, destiné à être mangé avec ou sans sucre et non pas jeté dans la gueule de son voisin. Il s'agit d'un aliment et non pas d'un projectile. J'aimerais qu'on s'en souvienne.
Et ce qu'il n'aime pas?
Dans les colos, ce qu'on fait la sieste. Et puis les monos, des fois, sont pas très bien.
Pourquoi?
Bon, parce que quand on n'a pas le droit, des fois quand on a 8 ans, on n'a pas le droit d'aller dans un groupe plus grand que ce qu'on veut. Et puis on voit nos copains jouer, et puis nous, on est en train de les voir, et puis on ne peut pas jouer avec eux parce qu'on n'est pas dans le même groupe.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez pas?
Moi, surtout qu'on est toujours en garçon, qu'on devrait être en mix filles et garçons. C'est pas bien, on est toujours garçon par garçon, même les écoles. En colonie, on devrait être filles et garçons, tous mélangés. Puis surtout, c'est les chambres qu'on avait là-bas. C'était tout du bois, c'était comme les bonnes sœurs, c'était les chambres à part. Alors, on était chacun, puis on pouvait même pas faire de bataille de polochon, rien.
Alors finalement, c'est bien ou c'est pas bien l'écolo?
Bah, il y a les trois quarts qui sont bien, puis le quart qui sont pas bien.
Marchons dans le vent du matin, le vent.
Mathias Gardé, les enfants s'expriment sur ce qu'ils aiment ou pas en colo à la fin des années 70. Et l'on retrouve évidemment les activités quotidiennes, mais aussi la question de la mixité. Un garçon raconte, on est entre garçons, ce serait mieux d'être entre garçons et filles. Alors je rappelle que la mixité, elle est vraiment obligatoire à l'école seulement en 75. Au niveau des colos, j'imagine que c'est un sacré débat.
Alors c'est un débat et en même temps, paradoxalement, assez tôt, on trouve des colos mixtes.
Avant l'école.
Avant l'école. Et je pense en particulier à ce film que moi j'adore, qui est L'argent de poche de François Truffaut, où on voit que la colo, pour des écoles justement ou des classes qui ne sont pas mixtes, devient l'endroit où on retrouve les filles, l'endroit où on peut draguer. Hein, et c'est d'ailleurs ce qui se passe au héros du film hein, qui trouve son premier amour en colonie de vacances.
Oui, donc quand on parlait au début de cette émission de ce rituel d'initiation des premières fois, c'est aussi l'éveil de la sexualité.
C'est aussi l'éveil de la sexualité, c'est là où malheureusement on avait le moins d'images pour l'illustrer. Hein, mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup amusé amusée à la suite de ce livre, c'est les réactions, vous parliez des réactions des enfants, mais les réactions des adultes qui sont allés en colonie de vacances. Et c'est des réactions comme dans l'interview du jeune garçon, on a ceux qui ont détesté et ceux qui ont adoré. Et c'est fou comme c'est quelque chose de totalement affectif. Pas raisonner, c'est vraiment, ça dépend de ce qui vous est arrivé. Et je voulais juste finir sur une anecdote qui m'a toujours amusé, qui montre bien que ces colonies de vacances, ça dépend aussi de celui qui l'a organisé. Hein, cette querelle que je parlais laïque, catholique, reste des querelles tout le long du siècle. Et notamment, une collègue historienne que j'aimais beaucoup racontait toujours cette anecdote en posant une question au public, en disant, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre une colo laïque, une colo catholique et une colo neutre? Et comme les gens ne savaient pas, elle disait toujours, c'est l'activité du dimanche matin. Pour les colos catholiques, le dimanche matin, c'est la messe, activité obligée. Pour les colos neutres, c'est activité libre. Et puis pour les colos laïcs, c'est l'activité la plus amusante, descente en kayak dans les rapides.
Alors avant de se quitter, Mathias Gardet, j'aimerais que l'on s'attarde sur ces nombreuses lettres écrites par les enfants à l'adresse de leurs parents. Elles remplissent votre livre sur les colonies de vacances.
Tu aimes ça d'abord, la colonie de vacances?
Oui.
Pourquoi?
On s'amuse, on a des jeux, on a des copains.
Et tes parents te manquent pas?
Non.
Tu leur écris?
Oui.
Ça suffit?
Oui.
Cher maman et papa, je voudrais pas trop vous inquiéter en vous disant que je suis très malade. J'ai une forte bronchite et 41 de fièvre. Et quand je pense, mon équipe va demain à la piscine. Je ne peux pas marcher sur le pied gauche car il est enflé. Je vous embrasse très fort, Anne.
Alma, on feuillette ensemble le gros livre sur les colonies de vacances à la recherche d'un autre courrier.
Page 143. Chers parents, frères et sœurs, je vous envoie cette carte pour vous dire que ma paire de chaussures s'abîme de côté. J'ai une ampoule éclatée au pied qui me fait très mal. Notre groupe d'équipe s'appelle les Nymphes. Nous avons été à Chambougo, qu'une fois et j'ai dépensé 1,50€. Je vous embrasse toutes, sur les deux joues rouges.
Tu es sûre que c'est 1€? Elle date de quelle année celle-là? Est-ce que c'est 1€ ou est-ce que c'est 1,50€?
C'est 1,50€.
Au fond, Mathias Gardet, si les colonies de vacances ont beaucoup évolué, si elles ont été l'objet de débats politiques et de multiples enjeux sociaux, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Est-ce que c'est ce rituel de la journée que vous mettez en page et que vous illustrez magnifiquement dans ce livre? Est-ce que c'est ça qui reste?
Je pense que c'est ce que montre l'iconographie. C'est ce que j'ai adoré dans les photos et dans les images. C'est que derrière tous ces discours sur les grandes évolutions qu'aurait pu connaître les colonies de vacances, du sanitaire au pédagogique, en fait, quand on regarde toutes ces photos de la fin du 19e, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ce même rythme de la journée qui apparaît et dans les souvenirs, c'est toujours celui-là qui revient. Le lever, les petits jeux, le repas, le courrier.
Le repas avec les petits Suisses.
Les petits Suisses et aussi tous les, je me rappelle, les assiettes en Pyrex.
Je me rappelle, c'est votre souvenir, Mathias Gardet. Vous vous rappelez de quoi, vous?
Alors moi, je me rappelle des grandes tentes. Marabout, hein, où on était 6, ouais. Et je me rappelle d'un drôle de jeu, un peu dangereux, c'était le jeu avec l'opinel. On devait écarter les jambes et lancer l'opinel entre les jambes. On l'arrêtait au moment où un des camarades s'est blessé.
Oula, d'accord. Mais pour vous, c'était quand même des bons souvenirs.
C'était mitigé, puisque j'ai un père qui était parti, qui avait été trop placé, et on a d'ailleurs utilisé de façon abusive ses souvenirs d'enfance pour y aller le moins possible.
Merci Mathias Gardet. Je rappelle le titre de votre livre, Les colonies de vacances. C'est aux éditions du Cherche Midi et c'est plein de photographies de bouilles réjouies. Les jolies colonies de vacances, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Sophie Janin. Les petits Suisses, c'est elle. Avec les archives de Lina et du Paged. Un grand merci à Gaëtan Souris. Une émission à réécouter sur RFI.fr. N'hésitez pas à vous exprimer, racontez-nous vos souvenirs sur Facebook. Le Facebook de La Marche du Monde, abonnez-vous à notre podcast. Cette émission, c'est la vôtre.